Rochénaret, Carnotzet, Voltaire.
Vauci Kultur on Air.
Carnotzet, Voltaire.
Carnotzet,
Voltaire.
Voltaire. Salut, bonsoir à toutes et à tous, hoitzame, et en particulier à vos animatrices qui vous accompagnent pendant une heure en français sur Radio Rabé, à commencer par Mélanie.
Buonasera.
Et RL.
Bonsoir.
Petite pensée aussi pour Eleonore qui nous écoute de loin, et moi-même, Laure, en compagnie d'un invité qu'on aurait pu déjà convier depuis bientôt 10 ans, puisque ça fait 11 ans maintenant que Philippe Bourcard dirige la fondation Sciences et Cités à Berne, à la Maison des Académies, pour les personnes qui connaissent. Et puis cette fondation Sciences et Cités fête ses 25 ans en 2023 et travaille maintenant d'arrache-pied à promouvoir le dialogue entre science et société, mais aussi à servir de plateforme pour promouvoir, encourager la communication scientifique. Bonsoir Philippe.
Bonsoir et bonsoir tout le monde.
Tu nous as promis d'essayer de parler en français, ce qui est courageux. Tu parles bien sûr très très bien, mais tu as grandi plutôt dans le canton de Berne, j'imagine, au vu de ton parcours. Donc si tu veux de temps en temps nous répondre en dialecte, libre à toi. En tout cas, on se réjouit de passer cette heure avec toi pour un peu décortiquer la jeunesse de la Fondation Sciences et Cités depuis 25 ans. Et puis justement, tous ces projets qui encouragent vraiment ce dialogue entre les scientifiques et la population.
Voilà, alors oui, je me réjouis de raconter un peu cette histoire et merci de m'avoir invité.
Et tu es venu, comme d'habitude, nos invités avec quelques morceaux d'un style de musique qui t'est cher, le jazz, puisque tu joues toi-même de la contrebasse.
Voilà, et j'ai eu une première pièce de musique avec un titre extraordinaire. C'est un classique de Charles Mingus, qui était un contrebassiste et compositeur. Et le titre de cette pièce est « Pitet Anthropus Erectus ».
Qu'on écoute tout de suite, mais peut-être pas tout en entier. Thank you. Commence avec du jazz et Charles Mingus. Philippe, tu nous disais que c'est un choix pas totalement par hasard.
Oui, comme j'ai dit, Charles Mingus, il était un fameux contrebassiste. Et ce que j'aime dans cette musique, c'est qu'il y a des phases très, très fixées et structurées. Et après, il y a des phases très libres, un peu sauvages aussi. Et cette combinaison, je l'aime bien.
Et c'est un peu un équivalent de Carnot et Voltaire, on improvise aussi bien.
Exactement, et puis ben, aujourd'hui aussi, on fait le parallèle entre la science, qu'on imagine souvent très structurée et compliquée, et la société, la population, peut-être aussi pour laquelle il est important de vulgariser cette science. Et c'est justement ce que fait ta fondation, dont tu as la direction, la fondation Science et Cité, pour laquelle tu travailles depuis 10 ans. Et qui fête justement ses 25 ans cette année. Alors on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui a poussé il y a 25 ans déjà la création de cette fondation pour faire dialoguer la science avec la population.
Voilà, alors la fondation Science et Cité était créée en 1998 et c'est vraiment une histoire intéressante parce que cette année-là, il y avait une votation importante sur le génie génétique. Et c'était une initiative très radicale qui voulait interdire toutes sortes de recherches sur le génie génétique. Et après, les scientifiques, ils ont dit « Oh, ça, on peut pas faire, vous pouvez pas ». Interdire tout, peut-être donner des limites, oui, des lois, mais pas interdire tout. Et ils ont vraiment protesté dans les rues et tout ça. Et à la fin, les gens ont dit non à cette initiative. Mais l'ancien secrétaire d'État, Charles Kléber, peut-être ça dit quelque chose encore, il a dit, OK, maintenant, il faut trouver des nouvelles pistes, des nouvelles solutions pour communiquer mieux entre les sciences et la société. Parce que c'était clair qu'on ne se comprenait pas.
Ça paraît finalement assez récent quand on repense à la pandémie qu'on a traversée l'année 2020. Là, Sciences et Cités existait depuis bien longtemps. Et puis, on revoit un peu ce même scénario. Qu'est-ce qui a évolué depuis Est-ce que la société ne comprend toujours pas vraiment ce que font les scientifiques?
Oui, alors ça, c'est une bonne question. Et quelquefois, on a cette impression que... cette relation reste très difficile et il y a des gens qui pensent même que ça devient pire et pire. Et en effet, il y a un outil très important en Suisse, c'est le Wissenschaftsbarometer. Alors, tous les 3 ans, il y a un sondage représentatif avec la population suisse pour effectivement regarder comment les choses se développent. Et ce qui est intéressant, c'est que la confiance vis-à-vis des sciences, elle est assez haute. Elle reste assez haute. Et pendant la pandémie, elle est encore... La situation s'est encore améliorée. On n'avait pas cette impression. Si on regardait la télé le soir, on n'avait pas l'idée. Mais alors, je pense en Suisse, on a quand même une situation assez bonne si je compare avec les États-Unis, par exemple, où il y a vraiment des extrêmes très forts. Et alors... La situation, le travail continue, il faut continuer à communiquer bien, mais c'est pas vrai que les choses deviennent pire et pire en Suisse.
Alors, justement, on va évoquer les nombreux projets que mène la Fondation Sciences et Cités, mais il y en a un qui se concrétise la semaine prochaine, c'est le congrès ScienceCom, qui réunit principalement des communicants, des personnes actives dans le milieu scientifique et qui ont ce rôle d'expliquer justement la science. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce congrès?
Oui, alors on a commencé avec ce congrès il y a 12 ans et l'idée était vraiment de promouvoir l'échange entre les communicateurs. Et il faut apprendre l'un de l'autre. Qu'est-ce qui fonctionne dans la communication, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et quelquefois, on a aussi des speakers de l'étranger qui viennent, qui nous parlent un peu qu'est-ce qui se passe au niveau européen, par exemple. Et c'est devenu un congrès assez important. Une fois par année, on se réunit et on crée cet échange, on discute les défis. Et je me réjouis beaucoup de cette conférence la semaine prochaine à Berne. Ouais.
Philippe, tu disais donc qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la communication scientifique. Mm-hmm. Est-ce que tu as des choses concrètes qui ne fonctionnent pas?
Oui, alors il y a une observation. Quelquefois, on pense qu'il faut juste expliquer aux gens. Il faut expliquer les sciences, donner des présentations, écrire des livres. Et après, les gens, ils vont comprendre et ils vont croire et faire confiance. Et on a remarqué que ce modèle, il a des limites. Il y a même des études qui montrent le plus qu'on explique, les gens deviennent de plus en plus sceptiques. Pourquoi ils veulent nous expliquer tellement de choses? Alors, le modèle de Science et Cité est plutôt le dialogue. On veut vraiment parler au même niveau avec les citoyennes et les citoyens. Et ça veut dire que les scientifiques, ils devraient aussi apprendre à écouter Est-ce que les gens eux-mêmes, ils ont des questions? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur, peut-être, du génie génétique ou d'une certaine recherche? Et chacun et chacune de nous a une certaine expertise, peut-être pas scientifique, mais une autre expertise. Et ça, il faut vraiment garder et respecter.
C'est de toute façon, il me semble, une tendance de vouloir justement intégrer le public ou parfois les personnes concernées, etc., pour justement augmenter la confiance, montrer que les experts, ce n'est pas seulement ceux qui ont fait des études académiques, mais aussi des gens, des fois, qui vivent tous les jours quelque chose. Par exemple, on peut imaginer, par rapport au génie génétique, c'était à l'époque, les paysans avaient aussi quelque chose à dire sur le sujet, alors qu'ils n'étaient pas scientifiques. Donc, cette ligne-là, en fait, c'est une communication qu'on peut utiliser dans tous les contextes.
Oui, c'est vrai. Aussi, hein, si on regarde tout le système de la santé ou le système de notre démocratie, il y a souvent cette question. Et il faut aussi regarder qui est notre public cible exact, avec qui est-ce qu'on parle. Il n'y a pas seulement cette population en général et on peut communiquer avec tout le monde dans la même façon.
Alors, tu parles de public cible, on va détailler un petit peu votre approche, parce que vos publics cibles sont nombreux. Et puis, une chose aussi essentielle qu'on n'a pas évoquée, c'est que vous êtes présent dans les trois régions linguistiques de Suisse, à savoir le Tessin, la Suisse alémanique et la Suisse romande. Est-ce que ça, avec un nom en français, est-ce que c'était déjà il y a 25 ans le cas? Vous étiez déjà actif dans toutes les régions de Suisse?
Oui, alors l'initiative venait vraiment de la Suisse romande. Alors vraiment Charles Kleber, il était francophone et Sciences et Cités a vraiment une philosophie un peu française, on pourrait dire. Cette idée de la citoyenneté et du dialogue, c'est très français. Mais le secrétariat général était toujours à Berne. Dès le début, et seulement après, on a créé des antennes à Lausanne et à Lugano. Et ça, c'est très intéressant et utile aussi, parce que si on veut vraiment dialoguer avec les gens, il faut être proche, il faut être près des gens. Et les cultures sont différentes. On ne peut pas faire tout dans la même manière en Suisse romande et au Tessin. Alors voilà, on a ces trois bureaux et ça c'est très utile pour notre organisation.
Ça veut dire que tu parles italien aussi?
Non, malheureusement pas. Je comprends un peu, mais la lingua franca, comme on dit, c'est vraiment le français entre nous. C'est pas l'allemand.
On va continuer avec une chanson qui rappelle aussi le côté sauvage, puisque tu as choisi Lou Reed avec Walk on the Wild Side. Tu nous expliqueras après la chanson ton choix. On écoute Lou Reed.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Room, she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
C'était Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side, pour garder le côté sauvage et improvisé que parfois la science peut être avoir dans son aspect de recherche. On est une heure, on est jusqu'à 20h avec Philippe Bourcard de la Fondation Sciences et Cités, et on voulait savoir pourquoi ce choix.
Oui, alors c'est de nouveau surtout la contrebasse qui peut être aussi utilisé dans la musique pop et rock. Et vraiment, cette chanson de Lou Reed, c'est extraordinaire et j'adore ce son de la contrebasse.
Mélanie disait, c'est une musique indémodable. C'est vraiment ça.
Je voulais surtout souligner que RL parlait beaucoup mieux anglais que moi au moment de dire le titre de Lou Reed. Mais on parlait juste avant le morceau de musique que justement du groupe cible de Sciences et Cités. C'est vrai que c'est quand même une fondation qui a peut-être un public cible assez restreint. Enfin, c'est pas toute la population qui est appelée à dialoguer avec la science.
Alors voilà, ça c'est un grand sujet, une grande question chez nous, et c'est un défi aussi. On veut bien faire des projets aussi pour des gens qui sont loin de la science. Si dans notre public il y a juste les académiques, et dans nos projets pour les enfants, juste les enfants des académiques, on n'est pas content. Ça, ce n'est pas le but de notre fondation. Et on a des projets où on veut vraiment quitter ce... En anglais, on dit le bubble.
Tour d'ivoire aussi.
Ouais, le tour d'ivoire. On aimerait vraiment atteindre des autres publics. Ce qui n'est vraiment pas facile, mais on peut peut-être parler de quelques exemples après.
Alors, il y en a toutes sortes, on peut même les évoquer tout de suite, c'est très concret. Hein. On connaît vos cafés scientifiques, par exemple, qui existent depuis plusieurs années. Et puis, il y a toute une palette de nouveaux projets qu'on peut découvrir sur votre site. Tu veux peut-être en détailler un ou deux ?
Oui, alors, pour commencer, les cafés scientifiques, c'est vraiment un format classique. Et même là, hein, les cafés ne se déroulent pas à l'université. On va en ville, vers les gens, et on, quelquefois ça dépend un peu des sujets, mais on a des manifestations où on remarque, ah voilà, ce sont des gens qui sont vraiment intéressés, qui n'ont pas un background académique. Mais il y a des autres projets. Alors, on a par exemple un projet assez particulier pour les apprentis. Et ça, c'est un public cible assez intéressant parce qu'ils sont bien éduqués, mais peut-être loin des sciences, hein, quand même. Et on a, ça, c'est un projet surtout sur Instagram, vraiment avec les canaux digitaux. Et on donne des petites morceaux d'informations et après notre équipe elle est aussi prête à communiquer avec les gens qui voient ça. Alors ça c'est un projet où on quitte clairement ce cercle des académiques.
Tu parlais des cafés scientifiques, c'est des cafés qui ont lieu où et qui se déroulent comment ?
Oui, ça dépend un peu, c'est pas toujours la même situation dans les villes, mais par exemple à Berne, ça se déroule toujours le premier lundi du mois, et les lieux sont la librairie Stauffacher et aussi le Generationenhaus, et maintenant encore le nouveau restaurant Mail, c'est tout près de la gare. En été, on fait dans le jardin du Generationenhaus en plein air. C'est pour ça qu'on change un peu les lieux. Mais c'est 9 ou 10 fois par an, tous les mois, et on aborde toujours des sujets actuels, et ça fonctionne bien.
Et puis, ben justement, on parle des publics cibles qui sont variés, autant des jeunes que des adultes. Mais quels sont les thèmes qui préoccupent la société, hein? On l'a bien compris, la santé, mais plus récemment, le climat aussi est à la une. Comment est-ce que vous choisissez des thèmes phares qui devraient intéresser la société?
Oui, alors normalement, on a un petit groupe de programmation qui discute... les sujets. Quelquefois, on fait aussi des sondages. Après une manifestation, on pose la question « qu'est-ce qui vous intéresserait encore ?» Et c'est un peu comme ça qu'on développe le programme. Et c'est clair, il y a ces grandes questions de la durabilité, climat, tout ça, toutes sortes. Mais il y a aussi des autres sujets dans les sciences, aussi sciences humaines, histoire, pédagogique. Par exemple, ça fonctionne aussi très bien. Quelquefois, on a les parents qui veulent avoir un conseil des scientifiques, comment je veux éduquer mes enfants. Et alors, on aimerait bien montrer toute la diversité aussi dans les sciences.
Et puis si on aimerait justement une fois venir voir...
Volontiers.
Comment ça se passe? Où est-ce qu'on trouve le programme? Où est-ce qu'on trouve le lieu? Tout est sur votre site internet?
Voilà, alors tout est sur le site internet Sciences et Cités. Et aussi, on a aussi un programme imprimé qu'on peut trouver chez nous. Et il y a aussi un newsletter qu'on peut abonner. Ouais.
On vous encourage. Donc le site internet, c'est sciencescité.ch.
Alors, On peut encore faire une pause musicale pour laisser à nos auditrices et nos auditeurs le loisir de visiter votre site web. Mais je les encourage aussi à aller sur votre compte Instagram, parce que là aussi, vous faites un gros travail de vulgarisation scientifique. Vous expliquez des concepts relativement complexes avec des mots simples.
Oui. Alors, on a deux canaux sur Instagram. Un est le canal officiel de Science et Cité. Mais on a ce projet que j'avais mentionné pour les apprentis, et ce projet et le canal là-bas s'appelle Vierter Stock, parce que les bureaux sont au quatrième étage.
J'espère que notre public a réussi à traduire de lui-même le Vierter Stock.
Alors, allez faire un tour justement sur les réseaux pendant qu'on vous passe de la musique. Et puis après, on aura aussi une petite question de brainstorming à vous soumettre. Mais d'abord,
on écoute Avishai Cohen avec Remembering. Thank you.
podcast. Carnot et Voltaire.
Avishai Cohen, un choix de notre invité Philippe Bourcard, directeur depuis plus de 10 ans de la Fondation Sciences et Cités, qui elle fête ses 25 ans. Et la semaine prochaine, autour d'un jubilé à la Turnhalle au Proger, et puis il y a tout un programme avec justement des keynote speakers. On a parlé de comment vulgariser la science, de comment mieux l'expliquer. Alors comment s'est concocté ce programme de ce congrès ScienceCom pour fêter les 25 ans de la Fondation?
Alors, on aura une cérémonie jeudi soir, un peu fermée pour des invités, où on va vraiment fêter ce jubilé. Mais sinon, c'est un congrès pour les professionnels de la communication scientifique en Suisse. Et on a les gens, ils contribuent aussi avec des présentations et des discussions. Alors, c'est très interactif et on va aborder des sujets intéressants. Un point fort ou un sujet principal cette année, c'est en anglais, on dit « from knowledge to dialogue to activism ». Alors, cette question de l'activisme qui était vraiment, qui a créé des discussions dans les derniers mois, ça sera abordé.
Surtout, la personne qui va faire le référat, justement, elle explique en quoi être scientifique et activiste n'est pas forcément contradictoire ou... Les deux vont de pair, parfois.
Voilà, alors, on a une personne qui est professeure à l'Uni de Lausanne, Julia Steinberger. Elle travaille dans le domaine de la durabilité. Aussi, elle est économiste, je pense. Mais elle est aussi activiste. Elle s'est collée sur l'autoroute en printemps. Et ça a quand même provoqué les gens. Et on était un peu curieux comment l'université va réagir, mais ils ont dit OK, c'est son choix. Mais c'est clair que cette forme de, on pourrait dire aussi de communication, hein, c'est une sorte de communication, parce que tous les journaux, ils ont après écrit de cette action. Là, ça crée des discussions parce qu'il y a des gens qui disent c'est même contre comment dire
contre-productif,
ça aide pas, et ça on va discuter la semaine prochaine avec elle aussi directement.
Est-ce que justement, on parle beaucoup de dialogue science et cité, science et société. Quelle est la place du dialogue pendant ce congrès? Est-ce qu'il y a vraiment un échange, des débats riches entre ces professionnels de la communication et les différents intervenants?
Oui, je pense. Le congrès lui-même s'est développé pendant les dernières années. Au début, il y avait beaucoup plus de présentations un peu classiques, mais dans les sondages, après, dans les évaluations, on a toujours vu que les gens, ils veulent vraiment avoir des formats interactifs. Ils veulent discuter, ils ne veulent pas juste écouter des présentations. Et on essaye maintenant de faire un programme qui va dans cette direction, oui.
Et puis vous allez aussi rencontrer la société, cette fois en amont du congrès. Oui. Vous ouvrez vraiment une tribune théâtrale, pour le coup, le mercredi 1er novembre à Berne.
Oui, c'est ça. On essaye toujours d'offrir une fenêtre pour un grand public, je dirais. Et ça sera mercredi soir au Ono. C'est un lieu culturel à Berne et il y aura un groupe de théâtre spécialisé sur le théâtre improvisé. Et la soirée s'appelle, je m'excuse, Brainfuck.
Et donc l'idée est de pouvoir justement débattre, présenter certaines thématiques scientifiques, ou c'est plus de l'improvisation en fonction...
Non, alors l'idée de ce théâtre improvisé est que quand le public peut donner des inputs et poser des questions, et après sur le stage ils vont réagir. Moi je suis curieux moi-même, mais ils ont une grande expérience et ça peut être très rigolo.
On parlait de brain fuck. Laure tout à l'heure parlait de brainstorming. On n'est pas loin. On voulait écouter une artiste alémanique, mais qui chante parfois en français. Et pendant cette petite pause musicale, on vous invite peut-être à réfléchir, parce qu'il y a quelque chose quand même qui vous taraude depuis quelques années. C'est science et cité, c'est pas forcément un nom abordable que tout le monde comprend, surtout pas forcément en Suisse allemande, et la difficulté de trouver un nom, non anglais, non anglophone, qui puisse parler à tout le monde. Donc, c'est quoi la difficulté avec ce nom, science et cité?
Alors, je remarque qu'en Suisse romande, tout le monde est très content avec ce nom, science et cité, parce que ça reflète exactement la mission et la philosophie. Mais en Suisse alémanique, les gens ne comprennent pas ce terme « cité ». Ils disent toujours « city », la ville, hein, mais « cité », ce n'est pas du tout connu comme terme. Et il n'y a pas vraiment une bonne traduction en allemand. Alors, ça c'est quelquefois un peu difficile, on doit toujours expliquer notre nom en Suisse alémanique.
D'où justement le claim en fait, quand vous vous présentez, c'est donc la Fondation Science et Cité.
Oui, et normalement nous mettons le sous-titre, et le sous-titre est assez clair, Wissenschaft und Gesellschaft im Dialog.
Effectivement, c'est assez clair. Donc, on vous invite à réfléchir. Si vous avez une super idée, vous pouvez la vendre à Science et Cité pour un nouveau nom. Et on écoute Sophie Unger avec Le vent nous portera, et on vous expliquera pourquoi, quel est le lien de Sophie Unger avec Science et Cité.
Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui m'entiraille, le palais des autres jours. longues années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destins en opposant, et qu'est-ce qu'on en retient?
C'était Sophie Unger, Le vent nous portera, magnifique reprise de la chanson originelle du groupe Noir Désir. Il y avait un lien, Philippe, entre la fondation et ce choix musical. Lequel est-il?
Oui, alors, ce qui est surprenant est que la mère de Sophie Unger, elle était vice-présidente de la fondation Sciences et Cités. C'était Mirta Velti, qui était une politicienne assez connue de l'UDC, mais elle avait un esprit très libre. Elle a aussi quitté le parti après. Et voilà, Sophie Unger est sa fille.
Pour notre plus grand plaisir et musicalement tout à fait, travers. Plaisant et qui dépasse les frontières linguistiques et culturelles. Et la Fondation Sciences et Cités, on en a parlé, vous avez beaucoup de projets et des projets aussi axés sur la jeunesse.
Oui.
Des projets très concrets, Skills Kiosk, qui s'adresse aux tout petits, par exemple. Tu peux nous en dire deux mots?
Oui, alors là, de nouveau, on essaye d'atteindre des enfants qui n'ont peut-être pas encore ce lien vers les sciences. Et là, on y va dans les, comment dire, Kindertagesstätten.
Les crèches.
Les crèches, hein. Oui, ouais, on va dans les crèches et aussi les Tagesschulen, où les enfants restent en après-midi. Et on fait des expérimentations avec eux et on essaie vraiment de toucher des enfants qui ont un potentiel, mais qui ne sont pas tellement familiers avec les sciences.
Ouais. Et les images sur votre site sont absolument parlantes, parce que la science, ça n'est pas seulement que le PFL et la recherche fondamentale, c'est prendre une loupe et faire, avec les rayons du soleil, brûler une feuille d'arbre, c'est faire marcher peut-être un petit appareil avec de l'eau.
C'est ça. On fait on essaie de bricoler, mais bricoler n'est pas le terme correct. C'est plutôt explorer, expérimenter et trouver des solutions pour un certain problème ou un devoir.
Mm-hmm. Ouais. Il y a aussi d'autres formats pour les ados des camps. The Camp Discovery, peu plus tard. Oui. Et puis, vous avez une offre aussi pour les enseignants. Qui veulent peut-être développer ce lien avec la science qui s'appelle Science and Youth.
Oui, oui. Alors moi, j'aime bien ce projet parce que là, on va dans les classes, écoles secondaires surtout, et on n'a pas encore fixé le sujet au début. On va chez les élèves et on pose les questions. Qu'est-ce qui vous intéresse? Et quelquefois, il pose la question, est-ce que Dieu existe? Mais il y a des autres qui veulent savoir comment on trouve des solutions pour la crise climatique ou pour des maladies. Et voilà, ça veut dire qu'on collectionne leurs questions et juste après, on cherche les experts pour dialoguer avec eux. Et moi, j'aime bien cette logique du projet parce que souvent, les scientifiques, ils ont leur sujet et ils commencent à expliquer, et c'est un peu trop quelquefois.
Partir de la base, oui. Partir du terrain, voilà. Et de la question, comme Mélanie le disait, de la société.
Oui.
Partir des besoins de
c'est
la
ça.
Société, besoins de la classe.
C'est ça.
Mais est-ce que finalement, la Fondation a un rôle de promotion des sciences dans le programme pédagogique de l'école, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de place dans les cours et dans les classes dans le programme du Lehrplan 21? Est-ce que c'est votre rôle d'influencer aussi là-dessus ou...
Oui, alors ça c'est une bonne question de nouveau. Et là, il y a une certaine direction qui intéresse beaucoup aussi la politique. C'est toute la promotion des sujets MINT. Mm-hmm. Mathématiques, informatique, naturwissenschaft, technique, parce qu'on n'a pas assez surtout de filles en Suisse hein, qui veulent être ingénieurs ou aller dans ces professions. Et là, on essaye quand même de montrer quelquefois aussi des role models, ça veut dire des femmes qui font ce travail et où les petites filles peuvent s'orienter un peu et dire waouh, peut-être c'est quand même quelquefois pour moi-même, c'est aussi la mathématique, la physique, ça pourrait m'intéresser. Oui.
Moi, tu m'as un petit peu titillé. Un scientifique, il répond quoi quand un enfant demande si Dieu existe ou pas?
Alors, je crois qu'il y a toutes sortes de réponses. Hein. Il y a les théologues qui ont leur théorie, peut-être, mais les physicistes, ils vont répondre très différemment, je pense. Il y a des scientifiques qui croient et il y a des autres qui ne croient pas du tout. À la fin, ce n'est pas une question scientifique.
Une question de conviction personnelle ou de croyance personnelle, tout à fait. Mmh. On profite vite encore d'écouter une chanson que tu as choisie, c'est Portiched avec Numb.
And there was so loud.
Pourcard, directeur de la Fondation Sciences et Cités à Berne, était avec nous pendant une heure sur les ondes de Rabé pour parler des 25 ans de la Fondation et surtout de ce dialogue entre science et société. Alors, tu nous annonces encore deux prochains rendez-vous ouverts justement à la population pour découvrir un petit peu ce que c'est que cette science accessible à tous.
Oui, alors à Berne, comme j'ai dit, mercredi prochain, au théâtre Ono, en vieille ville, il y aura ce groupe de théâtre improvisé, et ça va être très joli, je pense, très interactif. Et l'autre chose est le 6 novembre, on aura le prochain café scientifique aussi à Berne. Et ça tourne autour de la question, est-ce qu'on peut vivre d'une manière autonome? Est-ce qu'on peut cultiver les légumes moi-même et vivre comme ça, sans globalisation, sans science?
Et est-ce que c'est possible au niveau d'un pays entier?
Oui, voilà. Alors, c'est un peu une question provocante, mais ça peut être intéressant.
Et puis si on veut, on n'est pas disponible le 6 novembre, on aimerait voir un café scientifique, on a déjà les dates de 2024 ou les prochaines dates ou c'est au fur et à mesure que c'est actualisé?
Oui, alors le programme 24 n'est pas encore publié, ça va se passer en novembre, décembre prochainement. Mais voilà, comme j'ai dit, sur le site internet, on peut aussi abonner notre newsletter. Là, vous trouvez les dates et tous les sujets. Ouais.
Et beaucoup de vos événements et ces deux événements sont gratuits.
Oui,
ça c'est hyper important. La science et l'accès à la connaissance est gratuite.
Oui, voilà, merci de le mentionner. Ouais.
Alors, rendez-vous sur le site internet de Sciences et Cités, sur Instagram, comme on l'a évoqué. Un grand merci, Philippe, d'être venu pour nous parler un petit peu de ce que c'est que ce dialogue entre science et société et pour célébrer un peu en avance les 25 ans de la Fondation, puisqu'elle se fête la semaine prochaine dans le cadre du congrès ScienceCom. Restez sur Rabé, vous aurez l'occasion d'écouter Radisli, votre émission de musique suisse avec Bachetou et Andrea. Et puis nous, on se retrouve dans deux semaines pour parler français pendant une heure.